Jean Urbain, une émission coproduite par Locaux et FM+ sur la ville, ce lieu où se fabriquent nos relations sociales, lieu de pouvoir et de culture, un espace concret mais aussi porteur d'imaginaire. La ville qu'on va explorer avec ceux qui la vivent, la subissent parfois, ceux qui la pensent et ceux qui la font. Deuxième invité de Jean Urbain, après Nourdine Barra, c'est Yann Le Gouy, architecte montpelliérain. Bonjour.
Bonjour.
Le Gouy, Le Gouys.
Ah, comme vous voulez, dans le sud plutôt Le Gouys.
Le Gouys. Alors vous êtes donc architecte à Montpellier, associé de Sapiens Architectes, on en parlera, et maître de conférence à l'ENSAM, École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier. Je vous ai invité à partir d'un texte que vous nous avez autorisé à reproduire sur Locaux, qui s'appelait « L'arbre gris ». C'est un texte qui a eu une influence incroyable, énormément commenté, liké, relayé. J'en entends beaucoup parler. Vous portiez une critique assez franche et vigoureuse sur l'arbre blanc. L'arbre gris, c'est l'immeuble qui lui fait face. Vous pouvez lire cet extrait de votre texte-là ?
Juste en face de l'arbre blanc, de l'autre côté du Lez, on trouve un bâtiment ordinaire d'une époque pas si lointaine où n'existaient pas encore les médailles en chocolat décernées par des sites agrégeant sans discernement tout le contenu architectural mondial. En 1969, on ne confondait pas encore la recherche de l'authenticité et celle de l'excentricité. Ce bâtiment ordinaire, ce vieil arbre gris, n'est certes pas le plus beau bâtiment du monde, mais a de nombreuses qualités qui font cruellement défaut à son blanc voisin.
Alors, c'est d'abord ce qu'inspire ce texte, à mon avis, fait un peu référence désormais, c'est d'abord sa liberté. Il est assez rare de lire, d'entendre des points de vue aussi libres, aussi distanciés dans ce secteur-là, l'architecture, qui est, comme on le sait, très liée au marché public. Donc, qu'est-ce qui fait que votre voix émerge comme ça et qu'elle, finalement, elle est assez rare ?
En fait, c'est une configuration un peu spécifique qui est liée au fait que je suis associé d'une agence qui est basée entre Sapiens Architectes, qui est basée entre Paris et Montpellier. Et en fait, on a la spécificité de pas travailler là où on vit. C'est un peu et ça nous autorise parce que en fait, quand on est architecte, contrairement à ce qu'on croit, on est dans une position de courtisan. Donc en fait, que ce soit marché public ou marché privé, on est toujours dans l'oreille des puissants. Et du coup, le fait de ne pas travailler là où on vit, ça nous autorise une liberté de ton qui peut être effectivement plus compliquée à avoir quand on est lié à des partenaires, à des clients dans le coin. Mais je pense que quand même, le fait de remettre l'architecture comme ça dans le milieu culturel et pas juste dans le milieu économique, c'est intéressant. Donc, c'est ce que j'essaie de faire sur LinkedIn.
LinkedIn qui est un réseau, on se le disait tout à l'heure avant l'émission, où se développe quelque chose qui concerne l'ensemble des métiers de la construction, de l'urbanisme ou de l'architecte, est devenu vraiment un réseau de référence pour porter des connaissances et une réflexion dans ces domaines, on a l'impression.
Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que c'est un réseau social qui m'intéressait très peu parce que ça consiste surtout dans notre domaine à faire de la publicité pour son agence, etc. Donc, et là, on l'utilisait comme caisse de résonance pour faire de la critique architecturale parce qu'effectivement, il y a tout le milieu qui est là. En fait, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Mais je me suis inspiré pour ça de Jean-Marie Jancovici qui fait ça. Il y a plein de gens qui commencent à faire de la critique, qui vont interpeller les pouvoirs publics, les choses comme ça sur ce réseau social-là. Ouais, ça, c'est...
Alors, ne pas travailler là où on vit, est-ce que c'est un principe que vous recommandez pour une éthique de l'architecture ? Est-ce que d'autres confrères appliquent ce principe ?
Non, je recommande pas parce que c'est très fatigant, mais et puis c'est très compliqué économiquement en plus. Je le recommande pas, mais pour autant, c'est parfois des périodes dans la vie aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à Paris. Je suis arrivé à Montpellier il y a 7 ans. C'est une ville que j'adore et où je pense que l'architecture est pas au bon endroit. Il y a de l'architecture, il y en a plein. Il y a plein de gens de qualité, il y a plein de choses à faire. Et à chaque fois que j'entends parler d'architecture, que ce soit dans les médias ou pour le grand public, la diffusion de ce qu'on pense être l'architecture dans le grand public à Montpellier, j'ai l'impression que c'est pas au bon endroit. Donc j'essaye de dire où est le bon endroit pour moi de
Qu'est-ce que c'est le
l'architecture.
bon endroit pour l'architecture?
Bah,
Vaste sujet.
c'est un très vaste sujet. Bah, par exemple, c'est exactement le texte que je vous ai lu là. Pour moi, l'architecture, elle est plutôt du côté de l'arbre gris que du côté de l'arbre blanc, parce que en réalité. Ma petite sœur cherchait un appartement récemment, alors à Toulouse, mais pas à Montpellier. Mais si elle aménageait à Montpellier, je lui aurais conseillé d'acheter dans l'arbre blanc et pas dans l'arbre gris et pas dans l'arbre blanc, pardon. Parce que l'arbre blanc, c'est un bâtiment qui se voit de l'extérieur, mais qui est pas très agréable à habiter. Quand on est architecte, ce qui nous intéresse, c'est d'habiter dans les endroits qu'on construit, quoi.
Alors, s'il n'est pas fait pour être habité, il est fait pour quoi, cet arbre blanc?
En fait, il est fait pour diffuser une image de la ville vers l'extérieur. C'est projeter l'image de la ville vers l'extérieur. Ça s'appelle des choses qu'on appelle maintenant le marketing urbain, c'est-à-dire en gros l'espèce d'idée que les métropoles entre elles doivent lutter, doivent exister. Et on utilise les outils de l'architecture, c'est-à-dire l'image, les matériaux, etc., mais pas pour faire de l'architecture qui consiste aussi à lier ça à un usage. À des gens qui habitent, etc. Il y a quelque chose qui est très spécifique ici, c'est que, évidemment, on est dans une ville où tous les grands équipements sportifs, par exemple, maintenant ont des noms de promotion immobilière. Si vous prenez le stade Yves du Manoir, c'était très joli, Yves du Manoir comme nom. Maintenant, ça s'appelle GGL Stadium.
La piscine
La piscine
Angelotti,
Angelotti.
qu'on continue à appeler la piscine Antigone,
Et je pense que c'est
au
mieux de l'appeler
demeurant.
la piscine Antigone. Et on a le FDI Stadium maintenant, qui est l'ancien stade René Bougnol. Et en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce de force économique comme ça qui est une espèce de chape, mais qui est assez compréhensible, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens à Montpellier qui travaillent dans le secteur de l'immobilier. Mais par contre, tous ces gens-là, je pense qu'il y en a très peu qui habitent dans ceux qui construisent. Voilà.
Donc, le support d'une ville mondialisée, quelque chose comme ça, en quelques mots.
Tout à fait, et puis c'est de l'architecture jetable, c'est-à-dire que. En fait, c'est l'architecture comme un produit financier. C'est-à-dire que quand on discute avec un promoteur, les gens qui vont acheter des produits, ils appellent ça des produits, mais des logements pour y vivre, en fait, ça se résume. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une portion, c'est une très petite portion. Le reste, c'est du placement financier. Et en fait, ce sont des logements qu'on achète sur plan masse, c'est-à-dire chez son banquier en disant c'est à proximité du tramway, donc j'aurai pas de mal à le louer. Et en fait, dans un processus de construction de la ville qui est comme ça, l'architecte se retrouve seul à se battre un petit peu, enfin, devrait se battre pour la qualité des logements, mais évidemment, il ne le peut pas. Donc nous, par exemple, à l'agence, moi j'ai fait du logement en agence, pas à Montpellier, mais plutôt à Bordeaux, et je sais que c'est plutôt le contexte économique, c'est pas la faute des architectes, c'est pas la faute de... C'est que c'est très très compliqué de faire du logement de qualité aujourd'hui dans le contexte de production du logement.
Est-ce que c'est mal que certains bâtiments soient là pour le prestige, pour créer du tourisme? Parce que je crois que c'est devenu un des motifs de l'attraction touristique de Montpellier, donc des devises, donc des gens qui viennent, qui consomment, qui produisent donc des richesses. Est-ce que c'est pas acceptable qu'une partie des bâtiments de la ville ait cette fonction-là?
C'est toujours la question entre le monument et la ville. En fait, Bofill, il avait une belle métaphore où il disait que Bofill, qui a fait tout le quartier
Eh
Antigone,
oui.
qui est une des dernières parties vraiment intéressantes de Montpellier dans la construction neuve, il disait que le monument, c'était le logement. Alors qu'en réalité, dans la ville historique, les monuments et les logements se différenciaient assez peu. Se différenciaient beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, le logement faisait le grain de la ville, l'ensemble de la ville. Quand vous allez dans l'Écusson, tous les logements, il n'y a pas un logement qui est vraiment différent des uns des autres. Dans les hôtels particuliers, mais qui sont dans un ensemble de matières, etc., un peu cohérent, et les choses ne sortaient pas. Aujourd'hui, quand je prends l'avenue Gambetta, là, par laquelle on est arrivé, au bout, j'ai l'Eden Rock, une tour qui a poussé à côté de la gare. Et en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que le monument aujourd'hui dans la ville, c'est du logement de luxe, quoi. Ça, je sais pas si c'est... Moi, je préférerais que ce soit un théâtre. Et en fait, quand on sort de la gare de Montpellier, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est qu'on voit le Bellaroya de Manuel Gautran qui est en face. Alors qu'en fait, le vrai monument et le vrai beau bâtiment, il est dans le dos, c'est la gare. En fait, la gare, c'est un projet de la REP qui doit dater de 2002, 2000, entre 2002 et 2012, je crois. Et en fait, c'est un vrai projet de rénovation extrêmement précis, mais qui ne cherche pas à être autre chose que de l'architecture bien menée. Alors que le Bellaroya, c'est juste une image. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que quand à Montpellier, il vaut mieux regarder un peu dans le rétroviseur quand on sort de la gare pour voir de l'architecture. Ça, c'est pas mal.
Est-ce que vous appartenez à ce courant? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'architectes qui préfèrent les architectes à l'architecture, qui préfèrent l'architecture qui doute, qui questionne, plutôt que l'architecture qui impose, qui est autoritaire. Je crois que quelque chose dans vos remarques qui relève d'une architecture modeste. Est-ce que c'est ça dans quoi vous vous inscrivez et qui a expliqué ce pamphlet de l'arbre gris?
Alors douter, oui, mais en fait ça c'est un peu spécifique des gens qui... Plus on connaît un sujet, plus on doute en général. Hein. Donc moins on y connaît, plus on a de... C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont devenus vaccinologues au moment du Covid. Enfin, il y a plein de gens qui sont devenus experts de choses qu'ils connaissent pas très bien. Donc moi, plus je me plonge en architecture, plus je trouve ça compliqué et plus ça me fait douter. Mais donc l'architecture modeste... Bah, quand je fais du logement, par exemple, j'ai pas envie que chaque logement soit le reflet de ma personnalité. J'ai envie que ça serve surtout les gens qui l'habitent, quoi, et que ça serve la ville, en fait, et que ça soit pas le reflet d'une maîtrise d'ouvrage, d'un client ou de l'ego d'un architecte. Ça, c'est pas intéressant du tout, parce qu'en fait, ça n'a qu'un temps, quoi. Donc c'est peut-être quelque chose même qui est, j'allais dire, moins modeste encore que tout. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est que l'architecture elle puisse traverser le temps. Parce qu'en fait, c'est ça, le rôle de l'architecture. Donc, c'est quelque chose qui continue, qui n'est pas jetable, et qui est durable par essence, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment pas modeste du tout.
Vous avez cité dans votre texte l'ordinaire extra, oui, qui est un concept que vous ralliez, qui est celui d'un architecte urbaniste dont vous allez me rappeler le nom, Michelin, je crois.
Nicolas
Michelin. Il a un rapport avec la famille Michelin?
Je crois pas, mais c'est un très très grand architecte. D'accord. Ça a été l'ancien directeur de l'école de Versailles, et c'est qui est à la retraite maintenant, qui a une agence qui s'appelle l'ANMA et qui a fait toute la ZAC République, par exemple, à Montpellier, qui est une très mauvaise ZAC par ailleurs. Mais, mais c'est de lui qu'on emprunte. Hein. C'est chez lui que je l'ai lu en premier. Je trouve que l'espèce de notion d'ordinaire extra, en renversant le mot extraordinaire, je trouve que c'est... L'architecture, ça devrait être ça. C'est l'excellence dans l'ordinaire, ça me semble être le plus souhaitable pour un archi. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants.
Je vais vous poser une question un petit peu plus politique. Quand on arrive à Montpellier, on voit ces folies, hein, il faut dire le nom, qui ont été décidées par Michael Delafosse. D'abord, initié par lui quand il était adjoint à la culture sous Hélène Mandroux, puis annulé par Philippe Sorel, puis reprise avec ce nouveau mandat. Michael Delafosse est un maire socialiste. Comment vous imaginez qu'un maire puisse, socialiste de gauche, puisse rallier à cette architecture dont vous parlez, architecture de luxe, mondialisée, etc.
C'est une question sur les socialistes. Alors, ce qui est étrange, c'est que moi aussi, je suis socialiste.
Ou sur les maires, peut-être. Oui, ouais, vous aussi.
Moi aussi, je suis socialiste. Et en fait, je me
pas
suis
le même courant, peut-être.
Peut-être pas le même courant. En fait, je me suis rendu compte quand on aime bien le Parti Socialiste, on a ses meilleurs amis et ses meilleurs ennemis qui sont juste à côté. Et en fait, je pense que c'est surtout dû à une inculture. En fait, c'est que, en fait, y a un niveau moyen, c'est-à-dire que l'architecture est instrumentalisée à Montpellier depuis Georges Frêche, puisqu'on peut le dater, à peu près. L'architecture est instrumentalisée par le pouvoir politique à des fins de communication. Et on n'est jamais vraiment sorti de ça. Donc, il y aurait un outil très, très puissant pour sortir de cette situation-là qui consisterait à faire, et c'était une proposition du candidat Delafosse à la mairie de Montpellier, de faire une agence d'urbanisme, c'est-à-dire d'avoir un service qui s'occupe de toutes ces questions-là, de savoir si faire les folies, ça a l'air d'être une bonne idée comme ça, un peu quand on n'y connaît pas grand-chose, mais quand on se renseigne vraiment, il y a toute une histoire des réinventer Paris, dessine-moi Toulouse, réinventer Angers, tout ça, ce sont des procédures qui s'appellent les appels à projets urbains innovants, qui existent depuis 2015. Et en fait, il y a déjà toute une littérature qui a été faite par des agences d'urbanisme d'autres villes sur les avantages, les inconvénients de ce type de procédure-là. Et en fait, je trouve que l'idée de créer une agence d'urbanisme, ça servirait aujourd'hui le pouvoir en place pour essayer de rétablir, voilà, d'avoir un outil qui puisse les informer et qui soit un outil neutre et qui ne soit pas un outil politique, ouais, ça c'est sûr.
Elle n'a pas été créée visiblement, cette agence urbanisme.
Elle n'est pas encore créée. Alors,
pas encore.
Ça fait... Donc moi, dès que je fais un texte en général sur LinkedIn, je réinsiste sur le fait qu'on est une des dernières métropoles en France à ne pas... Perpignan, une agence d'urbanisme par exemple. Mm-hmm. On est une dernière métropole de France où on n'a pas d'agence d'urbanisme. Donc c'est la chasse gardée, j'allais dire, des politiques qui sont en place, donc que ce soit le maire, l'adjoint à l'urbanisme, etc. Sauf qu'évidemment, la continuité de l'État, dans une idée que la mystique républicaine que j'adore, la continuité de l'État doit être incarnée par une agence d'urbanisme qui pourrait très bien porter un discours à plus long terme que le passage des élus. Et sauf que cet outil n'existe pas. Et, sauf qu'en fait, moi, quand je critique l'arbre blanc, évidemment, je critique... Michael Delafosse a l'impression qu'on critique sa politique, mais en fait, ce que je critique, c'est surtout l'architecture qui en découle. Moi, j'adorerais débattre de ça avec une agence d'urbanisme qui m'expliquerait pourquoi c'est bien de faire des appels à projet urbain innovant. Et pas que quand je critique l'arbre blanc, on ait l'impression que je suis en train de critiquer la décoration du salon du maire. Parce que c'est pas ça. C'est l'arbre blanc, c'est Montpellier, quoi.
Il y a d'une certaine manière une continuité de ce geste architectural très politique, voulant laisser de grandes marques depuis Beaufil. Je me souviens, Beaufil, on critiquait aussi le côté inconfortable des appartements derrière le geste architectural imposant, voire pompeux. D'une certaine manière, on s'inscrit là dans une continuité à Montpellier.
Alors, oui, mais c'était le logement social, donc il y avait quelque chose de très fort avec Georges Frêche, c'est que la première partie de la place du Nombre d'Or, c'est le logement social qui était à très grande proximité du centre. Ouais, et donc ça, c'était un renversement de situation qui était important. C'est pas des tours de logement de luxe, quoi.
Mmh. Okay.
Ça me semble beaucoup plus socialiste, par exemple, comme idée.
Très bien. Il y a quand même, là, on va revenir à ce qui se passe au plan national. Il y a des architectes comme Patrick Bouchain avec le déjà là. Je voudrais vous poser la question, c'est la question finalement, la mère des questions en architecture, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'il faut toujours construire ? C'est un petit peu en filigrane ce qu'on peut lire dans votre texte. Est-ce qu'il faut construire pas simplement ces immeubles de luxe qui tourne le dos aux intérêts éventuellement des Montpelliérains et des Montpelliéraines, mais est-ce qu'il faut tout simplement continuer à construire ? On a l'impression que cette question traverse tout le champ de l'architecture et de l'urbanisme, que beaucoup prônent l'idée de réhabilitation, notamment, ce qui se fait un peu partout actuellement.
Tout à fait. En fait, mais la question qui est, en fait, c'est une question très montpelliéraine, ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut toujours construire à Montpellier ? Et quand vous allez à l'ODEV, par exemple, on n'est pas du tout dans le même type de problématique, alors qu'on n'est pas très loin. Et pour moi, il y a un problème fondamental qui est un peu supérieur à ça, c'est que ça questionne la question de la métropolisation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin et pourquoi est-ce qu'on doit attirer tout le monde dans le même secteur ? Pourquoi est-ce qu'on met en concurrence Toulouse, Perpignan, Montpellier, au prix de développer des aires urbaines énormes, alors que Carcassonne se vide, Agde, le centre-ville d'Agde, il y a un taux de vacance énorme. Et je ne comprends pas qu'on ait le droit de construire, en grande banlieue du Crès des lotissements, tant qu'on n'a pas re-rempli Agde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, même dans la transformation de la matière. Agde, c'est une ville formidable. Le centre, c'est à une demi-heure de train, c'est-à-dire que les gens prendraient le train. Donc, mais ça pose des questions d'organisation des transports publics et de fonctionnement en réseau de ces choses-là. Donc moi, j'ai une thématique, c'est construire peut attendre. Mais il y a surtout, c'est construire peut attendre et surtout, il faut empêcher de démolir. Par exemple, aujourd'hui, Il y a le grand drame, donc là j'arrive trop tard et j'ai pas pu me battre pour ça, je sais pas comment ça se fait, j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on démolit la tour d'Assas. Personne a su m'expliquer pourquoi on démolit la tour d'Assas. Pour moi il y a quelque chose qui
démolition est... prévue cette année. Hein,
qui a commencé je crois.
Qui a commencé, d'accord.
Et en fait, quand on voit tous les événements culturels qui se font autour en disant c'était super qu'il y avait cette tour, au pied d'une tour qui n'est pas encore démolie, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ça.
Une grande fête pour la fin de la tour. Alors qu'elle était un lieu de cauchemar, il faut le dire, pendant des années.
Elle était un lieu de cauchemar, mais en fait, c'est des situations sociales, et je ne suis pas sûr que ce soit la faute de l'architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de la forme urbaine. Des tours comme ça, il y en a à Paris, dans le centre. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de la forme urbaine. Et je ne suis pas sûr que le fait de la démolir, il y a une espèce de côté expiatoire qui a commencé, c'est une opération... contre la modernité qui a commencé à Saint-Louis, dans le Missouri, je ne sais plus le dater, mais je crois que c'est 62. Et en fait, depuis, on démolit. On démolit la tour INSEE en ce moment à Paris. Et en fait, la question, c'est non, il faut arrêter de démolir. Il faut, par exemple, je sais que la CERM va se faire construire son nouveau siège social à La Mosson. Mm-hmm. Il y a un projet...
Plusieurs centaines de salariés vont venir s'y installer. Ça, voilà. C'est plutôt pas mal, non ?
Dans une folie.
Mm-hmm. Dans une folie, ouais.
Qui va être à... C'est-à-dire qu'on va faire une autre tour à côté de la tour d'Assas qu'on démolit. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'envisage pas la réhabilitation de la tour d'Assas. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un projet ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer ? Tiens, la tour d'Assas, ce qui est assez amusant, c'est que la CERM a été créée pour faire la Mosson. Mmh. Et donc, la tour d'Assas, c'était la tête de proue de cette Mosson. En plus, la tour d'Assas, c'est l'œuvre d'un architecte dont le nom m'échappe, mais qui a fait le musée Paul Valéry à Sète, qui n'est pas un architecte, qui a un Grand Prix de Rome. Je veux dire, ça fait partie quand même des endroits qui sont relativement qualitatifs. Et du coup, je pense qu'on aurait dû prévoir la réhabilitation de cette tour. Et avoir une tour comme ça, qui a la deuxième tour la plus haute d'Occitanie, pour des gens qui aménagent le territoire, enfin, il y avait un lien avec Patrick Guédès, qui est le grand urbaniste montpelliérain de l'histoire de l'urbanisme. Et en fait, le fait de monter et de prendre de la distance, ça aurait très bien pu se faire dans la tour d'Assas. Et je trouve qu'il y aurait eu un lien poétique avec la création de la CERM, avec le déplacement de la CERM dans cet endroit qui aurait été fabuleux.
Il y a quelque chose que je viens de comprendre en vous écoutant, c'est que si vous écrivez des textes dans LinkedIn, c'est que vous êtes privé quelque part d'une co-construction. Vous appelez, vous souhaiteriez être entendu, ainsi que d'autres architectes, pour co-construire les projets montpelliérains. On a l'impression qu'il s'agit un peu de ça aussi.
Non, évidemment, je ne pourrais pas tous les construire. Et puis en plus, nous, on fait... Construire au sens intellectuel. Mais en fait, moi, j'adorerais discuter et partager des éléments avec une agence d'urbanisme. Ça, c'est sûr que ça serait... D'avoir des gens qui soient focalisés là-dessus, moi, je pourrais pas me substituer à ça. Puis j'ai plein d'autres activités. Mais c'est sûr que ça serait intéressant, ouais.
En attendant, on écoute John Lee Hooker à votre demande et on verra tout à l'heure pourquoi.
Thank you.
John Lee Hooker, né en août 1917 à Clarksdale, Mississippi, mort en juin 2001 à Los Altos, en Californie, immense chanteur et guitariste de blues. Pourquoi lui ?
Ah, parce que plus je vieillis, plus j'aime le blues, paradoxalement. Et j'aime beaucoup parce qu'on entend son pied frapper le sol, la guitare qui joue, lui qui chante. Et en fait, c'est un thème infini. C'est-à-dire qu'avec ces trois instruments, que sont la voix, la guitare et le pied, on continue à faire du blues aujourd'hui. Et sans avoir besoin d'aller chercher des choses extraordinaires à côté. C'est-à-dire que c'est toujours une musique vivante. Et en fait, l'architecture, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. C'est des rythmes et des choses qui sont simples, en fait. Mais c'est pas plus compliqué, c'est pas plus simple non plus, hein, que faire du Johnny Hooker.
Vous savez qu'à Montpellier, on a quelqu'un qui s'appelle Gilbert Guyonnet, qui est un des plus grands spécialistes français de blues.
Ah, je savais pas.
Dont on a passé la playlist à locaux récemment, je vous l'enverrai. Okay. Donc, partie Montpellier-Rennes, maintenant, on va recentrer sur votre rapport à la ville, peut-être de manière plus personnelle. Je vous ai demandé de préparer trois choses. Si Montpellier était un son, si Montpellier était un livre, et si Montpellier était un film. Le son ?
Alors le son, ça va pas être très original d'après ce que j'ai compris, mais c'est plutôt... En fait, c'est le son du tramway, parce que c'est le petit carillon du tramway, parce que c'est quelque chose qu'on entend partout dans Montpellier. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup de mal. Moi, je suis montpelliérain. Je suis un néo-montpelliérain, parce que je suis là que depuis 7 ans.
Et, vous êtes toulousain d'origine ?
Je suis toulousain d'origine. Je suis passé par Paris pendant 10 ans, et puis je cherchais à rejoindre la mer. Donc je suis passé par Montpellier, je me suis arrêté. Et en fait, le carillon du tram... Quand on sort de la gare de Montpellier, il y a cette espèce d'endroit extraordinaire qui est peut-être un des carrefours les plus compliqués en termes de gestion de trafic, de tram en Europe. Je crois que c'est le plus gros, il faudrait le vérifier aussi, mais on a beaucoup de mal à imaginer. Je pense que le grand apport de Georges Frêche à Montpellier, ça a été surtout, alors lui et peut-être Raymond Dugrand qui était son adjoint à l'urbanisme et qu'on a tendance à oublier, c'est le fait d'avoir piétonnisé le centre, d'avoir fait le tour avec le tramway et d'avoir développé ensuite... la ville le long de cet axe de tramway.
Ça, c'est bien.
Et ça, c'est bien, oui. Mm-hmm. Ça, c'est bien.
Un livre ?
Un livre, ben, ça, c'est Noces d'Albert Camus, parce que dans les livres de chevet que j'avais, il y a longtemps eu de la poésie, des choses. D'ailleurs, un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Francis Ponge, qui est né à Montpellier. Mais en fait, Noces de Camus, je l'ai découvert, il m'est tombé dessus il y a 2 ans, et ça ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que c'est exactement, j'ai l'impression, ce pourquoi même j'enseigne et j'essaye d'expliquer l'architecture, c'est que j'ai l'impression qu'être profond, c'est pas forcément être obscur, mais c'est être lumineux, c'est-à-dire essayer d'expliquer les choses simplement, avec des termes simples et qui parlent à tout le monde. Et ça peut être des grandes leçons de philosophie, comme dans les Noces de Camus. Et ça parle de la Méditerranée, ce très vieux carrefour, comme disait Brodel. Et moi, quand je suis venu à Montpellier avec ma compagne, on cherchait ce vieux carrefour et les échanges d'idées qui sont sur la Méditerranée, ça c'est sûr.
Le film ?
Alors le film, c'est... en fait, j'ai pensé aux deux papes de Fernando Méreyès, qui est une fiction qui est sortie sur Netflix, qui raconte l'histoire de l'abdication de Benoît XVI et l'arrivée de François Ier. Donc ça, c'est bizarre pour un socialiste, j'allais dire même chevènementiste comme moi, très laïque. Mais quand même, c'est une fiction absolument extraordinaire et où les personnages évoluent au Vatican, dans la chapelle Sixtine, dans les projets, la colonnade de Bernin, Michel-Ange, etc. C'est l'invention de l'architecture, hein, le Quattrocento. Et en fait, je trouve que c'est génial parce que l'architecture n'est pas un sujet, mais elle décore. Et moi, ce que j'adore à Montpellier, c'est quand l'architecture, c'est le décor. Par exemple, quand on se balade au jardin botanique, à côté de la cathédrale Saint-Pierre, en face de l'Institut de botanique, etc., il y a une espèce de cohérence et de qualité d'architecture. Donc moi, je suis architecte, j'apprécie énormément l'architecture, mais c'est un décor de vie absolument formidable. Voilà, Montpellier, c'est un décor de vie absolument formidable.
Mmh. Quels sont les endroits, puisqu'on a parlé de cet arbre blanc et des choses qui ne qui sont problématiques pour vous, mais quels sont les endroits que vous aimez, où vous vous sentez bien en particulier ?
Il y a vraiment plein d'endroits. Enfin, l'Écusson, très honnêtement, c'est un endroit où... Il y a vraiment, en partant de la place Albert Ier, cette espèce de montée au Pérou, avec le jardin botanique à droite, la tour d'Aragon à gauche, la fac de médecine, ça c'est vraiment un endroit qui est vraiment extraordinaire. Là il y a le Broc Café, je ne vais pas leur faire de la publicité, mais c'est quand même un endroit où on peut prendre un café le matin. On est en belvédère sur un jardin absolument splendide, qui est même à l'origine même de la ville de Montpellier, quasiment, parce que c'est lié à la faculté de médecine. Et je trouve que là il y a une qualité d'espace, de lumière. Enfin là, c'est la Méditerranée, c'est très 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 beau quoi, mm-hmm. Très très beau.
On va écouter, en parlant de mer, on va écouter un extrait de Georges Frêche que vous nous avez apporté, parlant de son rêve d'amener Montpellier à la mer.
Bien entendu, Antigone, si vous voulez, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la continuation de la ville, si vous voulez, vers la mer. C'est-à-dire, depuis 10 ans, la ville se développe de la Comédie jusqu'à la Payette, qui est quand même à 11 km, Triton, là-haut. Alors qu'on était pratiquement à la campagne, à 300 mètres de la Comédie. Donc, en même temps qu'Antigone, il y a la couverture de la dalle en béton sur la voie de chemin de fer, c'est-à-dire on coupe la coupure qui avait été faite au 19e siècle par le train, et la ville va pouvoir s'étendre vers la mer et rejoindre ses plages naturelles à la fin du siècle, qui sont Carnon et Palavas.
Alors, pourquoi cet extrait ? Alors, on se souvient de ce rêve, peut-être même de ce délire. En tout cas, la ville n'est jamais allée à la mer, hein, même malgré cette formidable impulsion sous Frêche. Pourquoi cet extrait ?
Parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est le moment où on invente une espèce de mythe de Montpellier, ville balnéaire. Et ça, c'est... Ouais. Et je me demande si cette espèce de mensonge initial qui est là à proprement parler du marketing urbain, c'est-à-dire en gros de dire tiens on a une métropole au bord de la mer, si aujourd'hui la situation dans laquelle on est, où on essaye de faire figurer des choses qui n'existent pas, c'est pas un peu à cause de ça. Et sachant que ça aussi eu le... Parce qu'au moment où il dit ça, juste à côté de lui, il y a Beaufil qui a l'air d'avoir un sourire un peu ironique parce qu'il est pas dupe. Mais Beaufil, il est en train de faire la place du Nombre d'Or qui est peut-être un des chefs-d'œuvre de l'architecture 20e en France, en l'occurrence, qui pose plein de questions théoriques, une vraie bombe théorique. Et donc, en fait, ce mensonge initial, il a conduit à faire de l'architecture, puis à une dégradation de cette chose-là. Mais par exemple, il y a un très beau livre qui s'appelle « L'invention du rivage ». On sait bien que les plages naturelles, par exemple, l'idée de la plage, c'est une idée toute récente à l'échelle de l'humanité, jusqu'au 18e, personne n'avait envie d'aller sur les côtes languedociennes, quoi. C'était pas possible. Mmh.
Ouais. Vous parlez d'un mensonge, mais est-ce qu'une ville n'a pas besoin de mythes, de récits ? Est-ce que c'est pas ça qui était fabriqué à l'époque par Frêche ?
Si, tout à fait. Mais en fait, je crois pas que ce soit les villes qui aient besoin de récits, ce sont les gens hein, qui ont besoin de récits. Mmh. Et je suis pas sûr que le fait de faire un récit spécifique, qui est en plus, j'allais dire, antinaturel, c'est-à-dire que Montpellier, qui est une très belle ville, n'a pas besoin de se tourner vers la mer pour être encore plus belle. Parce qu'en fait, en faisant ça, on fait peut-être une des choses les plus fausses, et c'est le port de Latte, quoi. C'est l'espèce cette espèce d'architecture qui a un pastiche total, où moi je suis vraiment très très mal à l'aise, mais pas qu'à Montpellier, ça existe un peu partout. C'est des tentations comme ça de se raconter des histoires à travers l'architecture, et je trouve que ça c'est y a un malaise total, quoi. Latte, c'est un peu l'enfer pour moi, et c'est même anti-écologique, c'est-à-dire qu'on va voir très bien qu'avec la montée des eaux, avec les Cévenoles, etc., on est en train d'étendre la ville dans des endroits où elle ne devait pas être, elle n'y était pas, c'est pas pour rien.
La question écologique, on la peut poser, elle est quand même centrale dans la construction des villes. J'imagine que c'est un sujet sensible pour tous les architectes. Il y a eu ces ormes, là du coup j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Ces ormes-là, un peu polémiques, d'après ce que j'entends, Francis Allais, Véronique Mur, beaucoup de spécialistes, de botanistes ont un tout petit peu tiqué. Ces arbres construits et dont les racines sont dans le parking de la Comédie, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, quand on parle d'arbres, par exemple, j'ai envie de faire confiance à Francis Allais. J'aimerais qu'il me fasse confiance si on parle d'architecture, mais du coup, je me tourne vers les spécialistes, donc Véronique Mur, Francis Allais, le fait qu'ils soient qui soient plutôt contre, naturellement, ça m'interroge. Alors, je ne suis pas paysagiste, je suis vraiment qu'architecte. Mais il y a une tentation aujourd'hui de récupérer dans le champ de l'architecture la question de la végétalisation. Il y a quelque chose qui est en train de sortir à Montpellier qui s'appelle les tours Évanescence. Là, je crois qu'ils ont commencé la construction. Donc, c'est François Fontès.
François Fontès, l'architecte. Tour de 50 mètres de voilà. haut. Deux tours, je crois. Oui,
deux tours. Et en fait, le bilan carbone, si on parle vraiment de bilan carbone, des renforts qu'il faut pour mettre des arbustes, l'entretien de ces choses-là, c'est complètement atterrant. C'est-à-dire qu'on est... on est très loin de quelque chose d'écologique. Et donc la végétalisation, ce n'est pas quelque chose d'écologique, c'est l'image de quelque chose d'écologique, ça c'est différent. Quoi.
Donc c'est votre arbre vert finalement.
Et ça va être l'arbre vert, oui, malheureusement, je crois que celui-là il est bien parti. J'osais espérer que la situation rattrape un peu cette tour, mais finalement cette tour, j'ai l'impression qu'elle va sortir quand même.
Alors dites-moi ce qu'il faudrait faire pour faire quelque chose qui ait du sens à vos yeux pour cette, par exemple, cette place de la Comédie, chauffée à blanc, minérale, infernale, et qui le sera de plus en plus avec le réchauffement climatique.
Moi, je pense qu'en plus, il y a une petite histoire à Montpellier un peu particulière avec la création du Zénith, il y a une petite histoire de l'architecture high-tech, avec des architectes comme Jean-Luc Loriol à Montpellier. Une architecture qui est très proche de l'ingénierie, de textile, etc. Et du coup, moi, par exemple, je pense que les toiles tendues, c'est quelque chose qui a été abandonné. Toutes les architectures légères en toiles tendues, etc., pour faire de l'ombrage, ça, ce sont des choses qui sont passées... passer de mode, et sauf qu'en fait, il y avait plein de pistes très intéressantes dans ces choses-là. Et moi,
des toiles tendues sur les places publiques.
Par exemple, mm-hmm. en Espagne, ça se fait beaucoup.
Ah ouais.
Et en fait, si vous regardez le Colisée ou même, je veux dire, les arènes à Nîmes, à un moment donné, il y avait un vélum qui couvrait provisoirement au moment les plus chauds. Les places. Et en fait, le fait d'avoir des architectures qui sont démontables, provisoires, comme ça, et ça implique un entretien, ça implique un autre regard, d'autres dispositifs. Mais je crois que c'est tout aussi, ça peut être tout aussi pertinent. Ouais. Du coup, c'est vraiment un regard d'architecte sur peut-être que la végétalisation. En fait, ça risque d'être un mix entre la végétalisation forcée et ce genre de dispositif. Ouais.
Et puis, pour terminer doucement cet échange, il y a l'arbre gris. Alors, du coup, est-ce qu'il incarne ce genre de bâtiment qu'il faut faire aujourd'hui à Montpellier? Est-ce que c'est comme ça? Parce que ses qualités, c'était, vous disiez, des vieilles recettes, des choses simples. Ils sont traversés. L'air circule, on a peu besoin de climatiser. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire, de l'architecture modeste avec des procédés finalement assez classiques, assez anciens? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Tout à fait. C'est plus une architecture qui repose sur la mécanique, la performance mécanique, etc. Mais c'est plutôt d'aller chercher un peu ce qu'on avait dans les années 60, hein, c'est-à-dire un peu moins d'énergie, un peu moins d'argent, un peu moins de ne pas compter sur la climatisation, ne pas compter sur des principes mécaniques. Et en fait, le truc, c'est que même l'arbre gris, moi j'aurais du mal à dire il faut faire l'arbre gris aujourd'hui, ça c'est compliqué. Mais par contre, de faire des architectures qui ne soient pas figées et qui ne soient pas figées dans une forme, ça me semble beaucoup plus intéressant. Donc ça, il faut travailler les typologies, effectivement, il faut travailler les systèmes traversants, il faut travailler plein de choses. Mais il y a plein de pistes, il y a plein de pistes. Mais l'arbre blanc, c'est sûr que c'est pas une bonne. C'est un bâtiment qui est difficilement reconfigurable pour des usages futurs.
En vous écoutant, on pense forcément à cette crise du logement qui est quand même très sévère. L'architecte ne peut pas y faire grand-chose, mais on peut toujours imaginer de quoi construire si les gens se logent. Il y a un hiatus quand même là, se logent de plus en plus difficilement à Montpellier, ce qui est le cas. Ça devient absolument infernal. Il n'y a pas de solution quand on est architecte.
Quand on est architecte, on répond à une question. Ça, c'est architecte, on répond toujours à une question. Si la question est mauvaise, on fait des mauvaises réponses. Moi, par contre, la vraie question, c'est pourquoi le centre de Carcassonne se vide? C'est pourquoi est-ce que on fait venir tout le monde à Montpellier? Pourquoi la question, c'est une question d'aménagement du territoire, pour moi, qui est vraiment la question essentielle. C'est pourquoi la Bastide Ouerou, quand vous partez un peu dans l'arrière-pays, vers l'Orbe, etc., tous les villages sont vides. Des villages qui vivaient Il y a plein de solutions. Il y avait de l'industrie textile qui est partie avec les accords multifibres dans les années 60. Il y a plein de raisons à ça. Mais,
donc la concentration métropolitaine, c'est un vrai sujet.
C'est lié à la construction sans arrêt. Mais c'est un ogre qu'on n'en finira pas de nourrir. Donc c'est ça qu'il faut arrêter, c'est la métropolisation.
Vous êtes aussi enseignant. Qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre à vos élèves? Qu'est-ce que vous avez à cœur de leur transmettre en ce moment?
Alors moi, il y a une phrase de Rabelais que j'adore, hein, qui est « Les élèves, ce ne sont pas des tonneaux qu'on remplit, mais des flambeaux qu'on allume. » Donc moi, ce que j'essaie de leur transmettre, c'est surtout la passion et la passion de faire. Voilà, c'est surtout ça que j'essaie de leur transmettre.
Merci beaucoup, Yann Le Guiz.
Merci.
C'était Genre Urbain, une émission coproduite par Loco et FM+, sur la ville, à écouter sur le site de loco.fr et sur toutes les plateformes, Ocha, Spotify, etc. et le premier jeudi de chaque mois sur FM+.